Robert Ouralt, La mort du soleil. Il manquait 40 minutes pour que le jour commence à poindre. Sylvave se montra sur le pas de la porte située derrière l'hôtel, celle par laquelle on entrait la viande et la grasse, et avec une expression abrutie, il regarda longuement la chaussée luisante. D'interminables colonnes de chiffres dansaient dans sa caboche. Parmi les places, espaces de ces chiffres, se mouvant encore devant ses yeux, il vit, sous la lumière jaunâtre d'un phare, un chauffeur finissant d'ajouter un écrou desserré dans sa balayeuse mécanique. Sylvaffe leva la tête au zénith. D'innombrables gouttes de lumière étendaient des taches laiteuses sur la voûte noire, l'animant ainsi d'une mystérieuse vie. Sylvaffe, d'entre les piliers de chiffres qui scintillaient et qui oscillaient sur sa superficie de son cerveau, déracina ce lambeau de pensée. La vie que je mène est absurde. Il faudra que je me trouve un travail de jour. Aussitôt, il rectifia. Bon, ce que je pense est une absurdité. Où trouver du travail aujourd'hui? Il tassa de l'index le tabac dans sa pipe et se mit à entrer dans les façades obscures, à descendre la rue vers le port. Il avait déjà laissé derrière lui les grandes artères commerciales, les couloirs des gratte-ciels, clos par des rideaux de fer, les vitrines des maisons de mode envoûteuses, avec leurs mannequins de dimensions sous la lumière violacée des lampes à gaz étranges. De temps en temps, il croisait des noctambules qui, avec le col du par-dessus relevé jusqu'au cou, jusqu'aux oreilles, marchaient hâtivement vers le lit, traînant nonobstant les pieds, ce qui les différenciait de ceux qui, pour une raison ou une autre, achevaient de se lever, car ces derniers volontairement talonnaient. Il commençait le jour proche, sous la tristesse des premiers qui remplaient les ombres. Sylvaffe allait, les mains enfoncées dans ses poches, jonglant toujours avec le même lambeau de pensées inutiles. Il n'y a pourtant pas de doute qu'un emploi de jour me conviendrait. Lorsqu'il s'arrêta soudain, effectuant avec la tête ce mouvement qui, chez l'animal, se traduit par le pointement des oreilles dans une direction déterminée afin de recevoir, cueillir un son ou un silence alarmant. C'était pour lui ce dernier cas. Un silence, pareil à celui qui se produit dans les oreilles du radio-écouteur en enlevant ses articulations auriculaires, vient d'onduler dans ses oreilles. Un silence peut-être surhumain, auquel il n'est pas habitué et sur lequel Sylvaffe se passe en se disant à moitié endormi. Cela doit provenir de mes nerfs fatigués par le travail de nuit. 50 mètres avant d'arriver à la rue 27, on pouvait voir le rectangle de lumière qui lançait sur le trottoir et la façade d'en face, une crèmerie toujours ouverte. Bien que le parage fût sale et sordide, La viande que l'on y servait était de bonne qualité. Sylvain entra et, comme d'habitude, commanda au garçon le beefsteak avec la correspondante paire de frais. Il déjeunait toujours ainsi. Lorsqu'il repartait, le soleil s'éclaircissait déjà. Alors il s'enfermait dans sa chambre, située au fond d'un obscur corridor appartenant à l'appartement d'un septième étage de l'avenue 88, et il dormait jusqu'à 4 heures de l'après-midi. En attendant qu'on le serve, il ferma les yeux à demi, et bientôt il dut se déranger avant que le garçon place la nappe de papier, l'huilier et les 2 pains qu'il mangeait avec son beefsteak. Sylvain appuya la tête sur la paume de sa main. Le jour ne venait pas encore. Pourtant, c'était l'heure. Il consulta sa montre et après compara l'heure avec la pendule de la crèmerie. Il y avait entre les deux une différence de 3 minutes. Votre pendule marche-t-elle bien? Demanda-t-il au patron qui, derrière le comptoir, les jambes écartées dans une flaque de soie et de mousse de bière. Les coudes appuyés entre un fromage et un jambon, lisait l'édition matinale d'un quotidien. Et lentement, le commerçant retira sa montre de sa poche. Il observait une différence de 3 minutes avec la pendule. C'est curieux, insista Sylvain. Qu'est-ce qui est curieux? Ben, hier, à cette heure-ci, le jour pointait, et aujourd'hui, il n'est pas encore commencé. Un gros homme qui, accoudé au comptoir, lisait une page de revue, se tourna et il conseilla avec sagesse. Mais pourquoi ne regardez-vous pas dans le journal? Puis lui-même, prenant le quotidien des mains du patron, lut à haute voix. Soleil, soleil, sort. Non, se couche. Sort à 6h18. Et 6h20, ma montre, le soleil ne s'est pas encore levé. Bah, c'est votre montre qui doit aller mal. Le gros homme sortit de son gilet une sorte de boîte en nickel. Bien, à ma montre, il est aussi 2h20. Le patron, Sylvain et l'homme s'approchèrent de la porte de la crèmerie. La même obscurité laiteuse dans les hauteurs, les mêmes innombrables gouttes de lumière, tremblantes, froides. Vers l'est, il n'y avait pas encore le moindre signe de la proximité du soleil. Ces 3 hommes se regardèrent consternés, puis le gros proposa: Bon, ben, les journaux doivent se tromper. Oh non, les journaux ne se trompent pas, assura le dernier. Sylvain réfléchit et ainsi, de son engourdissement, tira cette absurdité. Les postes de radio n'auront-ils pas transmis l'heure? Un crieur de journaux passant vendait un autre quotidien. Au moment de repartir, il se dit: C'est bizarre que le soleil ne soit pas encore sorti. Ils consultèrent la colonne qui traitait des questions météorologiques. Maintenant, il ne pouvait pas y avoir de doute. Le soleil, ce jour-là, se levait à 6h18 minutes. Un sergent de ville s'arrêta devant eux. Il brandissait son bâton. Avez-vous vu qu'il ne commence pas à faire jour? Puis il regarda le patron. Votre téléphone fonctionne-t-il déjà? Oui. Alors j'avertis le commissariat que le soleil ne sort pas. Et il se dirigea vers le téléphone. aucune sensation de terreur n'est semblable à celle qui s'apparaît à la possibilité de la mort du monde. Sylvain connut cette sensation 10 minutes après que le sergent de ville lui parlait par téléphone. Il n'était plus possible de douter. Non seulement il allait mourir à présent, mais aussi la planète et l'œuvre patiente de millions de générations d'hommes à travers les siècles obscurs et passés. Pourtant, quelques-uns semblaient ne pas comprendre. Ils conversaient allègrement sous les réverbères comme s'il s'agissait de l'avènement de la fête. La nouvelle courait dans toutes les directions. On découvrait des groupes d'hommes qui, se faisant une visière de la main, guettaient à l'horizon l'apparition du plus intime frange de lumière. Et Sylvov, déconcerté, ne savait de quel côté se lancer. Il oublia complètement qu'il avait sommeil. Une inquiétude extraordinaire agitait sa conscience. Après la sensation momentanée de terreur infinie, qu'il aplatit durant quelques minutes sur la table de la crèmerie, son esprit reçut comme une décharge d'optimisme. Il s'éveillait en une autre planète, qui, bien que se nommant la Terre, n'était déjà plus elle. On ne pouvait plus douter. Il manquait 5 minutes pour qu'il fût 7 heures de matin. Et c'était encore la nuit, sur les corniches et les balcons des hauts édifices, s'apercevaient des groupes d'hommes inspectant l'horizon ou la voûte céleste avec des longues vues, dont les pièces nickelées scintillaient dans l'ombre en étincelles d'argent. Les tisons des cigares semblaient de rouges signaux d'alarme. Un vent froid courait le long des murs. Les vagabonds, qui s'étaient endormis sur les socles, se réveillaient ahuris, regardaient l'horizon, puis s'approchaient des groupes où ils étaient reçus comme si le chambardement céleste avait aussi déterminé un changement dans la conscience sociale des habitants de la ville. Sylvain s'étonna de se surprendre, pensant allègrement cette puérilité. « Oh, je ne paierai pas ma dette à la banque !» Il enchaîna à la suite. « Ben, j'irai pas non plus travailler. On va pas pouvoir me mettre à la porte. D'autre part, la pagaille qui va se produire est magnifique. Qu'en sera-t-il des fabricants d'ombrelles et des marchands de fleurs ?» Un journaliste, en compagnie d'un photographe, s'arrêta peu pas que lui. Le magnésium du photographe scintilla, et le journaliste s'approcha. « Mais vous me donnez une opinion sur le phénomène ? Vous vous trouviez dans la rue à l'heure où le soleil devait sortir ?» Sylvain froussa les épaules et continua à marcher. Alors le reporter, chevillant à ses côtés, lui demanda, mais déjà d'une voix qui tremblait, « Sommes-nous ou non au commencement de la fin du monde ?» Sylvain se dévisagea. C'était un garçon jeune, il y avait probablement fort peu de temps qu'il travaillait à un journal, et l'on devait l'envoyer dans la rue à la recherche des impressions, afin qu'il ne gêne pas ceux qui travaillaient à la rédaction. Alors finalement, il lui répondit, « Oh, si vous avez quelque chose dans une banque, ne le paye pas, ne payez pas !» Des gens, à demi vêtus, emplissaient maintenant les cages des escaliers, les balcons, les vestibules, des différents édifices énormes. Certains se peignaient en même temps qu'ils se divisaient. Les jeunes filles trouvaient au milieu de l'agitation une délicieuse opportunité de faire voir leurs cache-corsets ou leurs jarretières. Au loin résonnait une sirène. Les chiens domestiques, déconcertés par un tohu-bohu si inopiné, se réfugiaient dans les jambes de leurs maîtres. De temps en temps, on les voyait sortir leur museau, poindre sous une jupe et grogner, hostile. Tandis que les enfants, tirant les manches des effets de leurs parents, oubliaient de tarabuster les chiens afin de demander « Est-il vrai qu'à présent nous n'irons plus au collège ?» Une pensée désagréable se déroula dans l'esprit de Sylvain. Mais que mangerons-nous? Dans peu de jours se termineront les réserves alimentaires. Les plantes mourront par manque de lumière. Tous les animaux devront être sacrifiés pour qu'ils ne périssent pas de faim. Serait-il pas convenable? Je m'approvisionne d'aliments. Il fouilla dans ses poches. Il possédait 2 piastres et 60 centimes. Il était parvenu à ce que l'on dénommait la place des parfums. La place des parfums était un rectangle asphalté. En son centre fleurissait un géranium dans un pot. Sylvov, fatigué, se laissa choir sur un banc. L'air frais du matin, nuit, le faisait frissonner. Les étoiles semblaient plus grandes. De chaque vertex et de chaque fil de leur pointe paraissait se dégager sur la planète une goutte de rouge lumineuse. Soudain, Sylvain eut la sensation qu'il y avait fort longtemps qu'il ne voyait pas le soleil. Et avec une intensité dramatique, il se rappela l'astre noir, l'astre mort, qui plaquait comme des draps jaunes sur la façade des maisons. Oh, sans pouvoir se retenir, il commença à pleurer avec une amertume enfantine. Depuis combien de temps cela durait-il? Il revoyait le soleil du matin remplissant, ainsi qu'une rivière débordée, tous les creux de la ville. La température de midi, d'été, lorsqu'il déboutonnait son col et épongeait la sueur de son cou avec un mouchoir. Même en cet instant, il semblait être obligé de fermer les yeux devant un tel excès de splendeur lumineuse. Il regardait les gens se réfugiant dans les lieux ombreux, les tonnelles débordant de buveurs, de rafraîchissements, les arbres des parcs flottant comme des miroirs tant géants d'avant fondus, les nuages rouges de crépuscule devant lesquels s'extasiaient les couples des amoureux. Et jamais plus, il ne verrait le soleil. Il remua puérilement la tête comme s'il se trouvait devant le cercueil d'un petit enfant mort. Sur lui brillaient toujours de sinistres étoiles bleues et verdâtres. Le vent était chaque fois plus froid. Les distantes planètes ressemblaient à des lumignons secoués par le simoun. Un fracas sourd résonna à ses oreilles. Il releva un visage baigné de larmes. Des camions chargés de troupes défilaient. Lorsqu'il passait sous les lampes à arc, on voyait que des soldats étaient armés. Sylvain se leva et commença à marcher désespéré. Et devant la façade d'un café, un groupe de personnes écoutait la voix d'un haut-parleur. Et le maire de la ville parlait. Un accident cosmique imprévu a éteint la lumière du soleil. On ignore encore si le phénomène est transitoire ou permanent. Les habitants de la ville sont priés de s'efforcer de maintenir l'ordre. Entre-temps, comme mesure de précaution, afin d'éviter de pires maux dans l'avenir, la vente des vivres est formellement interdite. Tous les habitants devront s'inscrire au commissariat de leur quartier et recevoir une carte. Et afin d'éviter des attroupements inutiles, ils se présenteront par ordre alphabétique. À 10 h du matin, ceux dont les noms commencent par la lettre A. Les commerçants prépareront une liste des denrées qu'ils possèdent et dont prendront livraison les officiers de l'armée. Une telle mesure tend à éviter que se produise une disette des vivres. L'industrie chimique prépare à toute vitesse des pastilles contenant des vitamines et des protéines, ce qui, dans peu de jours, permettra d'alimenter la population sans que son état physique s'en ressente. Un chœur de voix accompagna la fin du communiqué. Sidlov s'éloigna de là, et en arrivant au croisement de rues que formaient les avenues 19 et 24, il observa qu'en face de la guérite des agents de police, une patrouille de soldats montait une mitrailleuse. Il voulut aller plus loin, vers les quartiers dénommés des Griches, mais un cordon de sentinelles placé par deux à chaque coin de rue fermait l'entrée de la ville jardin. Un gueulard faisant de l'équilibre sur le dôme vert d'une boîte aux lettres pérorait pour un groupe de voisins apeurés. Est-ce qu'il nous est arrivé trois fois rien, messieurs? Pouvez-vous vous expliquer comment s'arrangeront en Chine les millions et millions de Chinois? Que le diable vous importe les Chinois? Éclata de mauvaise humeur un auditeur. Non, le Dieu, mais comment les Chinois ne nous apporteraient-ils pas pour fabriquer des aliments synthétiques pour 500 millions d'hommes? Il faut des fabriques chimiques en masse. Et ceci ne s'improvisera ni aujourd'hui ni demain. Des millions et des millions d'êtres vont mourir. Peut-être retournons-nous au cannibalisme primitif. Des pestes se produiront. Oh, qui se taise ! Sylvain s'écarta du groupe somnolent. Et dans un café de quartier, un haut-parleur placé à l'entrée rugissait parmi de grinçants hoquets. Par ordre de monsieur le gouverneur militaire de la ville, tous les médecins devront inscrire leur adresse dans les districts militaires qui leur correspondent. 10 minutes après, à la hauteur des rues 29, 79 et 27, près du marché aux chiens, un autre amplificateur électrique récita d'une voix de stentor: le trafic des automobiles est interdit. Les garages notifieront avant midi le nombre des voitures, leur nom et l'adresse de leur propriétaire. Au coin des rues 80 et 27, un bar fréquenté par les chauffeurs était occupé par une multitude d'artisans. Sylvain entra et, suivant un chemin à coups de coude, s'approcha du comptoir. Il demanda un café. On lui servit une petite tasse d'eau chaude, légèrement obscurcie par des résidus de vieille chicorée. Elle lui fut comptée 3 fois la valeur normale. Un travailleur accablé, assis au bord d'une table, demanda dans le vide, sans s'adresser à personne: mais de quoi allons-nous vivre, nous, les fabricants de chapeaux de paille? Et moi qui étais jardinier, et moi qui étais cordonnier, voix jeune venant du fort, entre des fûts, s'exclama « Ben, il surgira des centaines d'industries nouvelles. Qui nous dira que nous ne vivrons pas bien mieux qu'avant ?» Un homme en casquette, avec une barbe de 3 jours, totalement à faune, perdu par là pour ceux qui étaient de tout près de lui. Jusqu'à présent, la production de la matière était soumise aux caprices de la nature et les commerçants se maintenaient, l'État devait contrôler la production. Eh bien, cela bien ça. C'est bien, ça serait bien du gouvernement des politiciens. Et c'est celui des techniciens qui commencera. Un autre ajouta, promet qu'on le veuille ou non, la reprise économique va changer. Silvov sortit de nouveau. Une curiosité infinie le poussait à marcher. Il ne travaillerait pas aujourd'hui, ni demain. Maintenant, on allait constamment vivre dans la nuit. Possiblement, de merveilleux systèmes d'éclairage allaient naître. La structure des vues des villes changerait. Peut-être étudierait-on sous la surface de la Terre. Il n'était plus que certain que le monde se refroidirait lentement. Mais où donc avait-il lu cela ? Pour n'importe où. La catastrophe avait été prévue, mais pas s'y rapprocher. C'était plus que certain. L'industrie absorberait les 70% d'énergie des masses ouvrières. De temps en temps, des automobiles à toute vitesse traversaient le croisement de ces îles, des rues illuminées. Elles étaient remplies d'hommes précipitamment appelés pour des consultations d'État. Silvaf et une dame en chapeau s'arrêtèrent et lurent sur une ardoise. On demande à la population de ne pas s'alarmer. Des nouvelles reçues de Londres font savoir que cette nuit réunira un congrès extraordinaire de savants, lesquels détermineront les positions les plus urgentes à prendre. À mesure que ces résolutions seront prises, elles seront notifiées par des bulletins spéciaux et par radio. Silvaf et une dame en chapeau s'arrêtèrent et lurent sur une ardoise. On demande à la population de ne pas s'alarmer. Des nouvelles reçues de Londres font savoir que cette nuit se réunira un congrès extraordinaire de savants, lesquels détermineront les dispositions les plus urgentes à prendre. À mesure que ces résolutions seront prises, elles seront notifiées par des bulletins spéciaux et par radio. La dame au chapeau se sécha les yeux avec un coin de mouchoir, et Silvaf, exténué, se laissa tomber sur le seuil d'une maison à louer. Il ferma les yeux. Il se souvint de son enfance, d'une manière, d'une matinée de soleil à la campagne. Une légère brise inclinait doucement les herbes. De rares papillons blancs allaient et venaient, comme maintenus en suspension dans l'air par le capricieux tournoiement du vent. Il expérimenta une sorte de vertige sous l'obscur ciel de la nuit. Et tout à coup, la vie extérieure résonna dans ses oreilles. Quelqu'un criait à proximité de sa tête « Mais n'allez-vous pas manger votre beefsteak ?» Le garçon de crèmerie se tenait debout devant lui. Salof, sourit en s'étirant. Tout avait été un rêve vertigineux, se déplaçant avec une vélocité plus incalculable encore. Oui, le beefsteak était là, avec les œufs et les pommes frites. Une clarté bleue et roide mordait le seuil de la crèmerie. À travers les vitres, les façades des maisons devenaient lentement grises. Une femme en robe marron passa près d'un pas hésitant. Une cloche tinta lentement. Les vitres du magasin s'enrouèrent du lait brouillard matinal. Sylvov sentit que son cœur se contractait douloureusement et il pensa « J'ai rêvé. Oh, je dois me chercher un travail de jour. » Puis avec angoisse, il s'inclina sur le beefsteak.